avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Ravi de vous retrouver pour de nouveaux moments de goût et de luxe avec mon complice de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et en cette période, forcément, on continue à préparer les fêtes avec Emmanuel. Alors, très belle sélection de cadeaux. J'espère que vous n'avez pas raté la semaine dernière. Et donc, cette semaine, on va préparer les bouteilles avant de vous aider à préparer le repas. Ça, ce sera la semaine prochaine. Mais donc, les bouteilles, uniquement des bouteilles d'exception. Vous l'imaginez bien aujourd'hui, que ce soit en termes de vin, de champagne, de spiritueux, d'alcool français, tout ce que vous voulez à consommer avec modération, bien entendu. Mais les plus belles bouteilles, tout de même, choisies par la crème des sommeliers et des cavistes. Nous serons dans un instant avec Bernard Neveu, il est le sommelier du Bristol. Mathias Breton est chef sommelier de l'hôtel Le Docams, grande cave à champagne parisienne. Ariane Kédal est directrice générale de Duclos, en charge de la cave des Galeries Lafayette. Et Philippe Jugé, il est directeur associé du salon France Quintessence. Il nous parlera de la vague des alcools français. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Boudelux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et pour les nouveautés de la semaine, on retrouve Sandy Pronois. Bonjour.
Salut.
Sandy, Web de Luxe dans un instant. On est ravis de vous retrouver sur le plateau
aussi.
Avec nous. Emmanuel, on commence quand même par la table de la semaine. Et on l'attendait,
c'est
le nouveau Clover.
Je crois qu'on l'a annoncé depuis le mois de février dernier. Alors, il y a eu pas mal de petits soucis de travaux. Clover, c'est l'adresse bis d'un certain Jean-François Piège. On ne le présente plus. À deux étoiles du côté de la rue d'Aguesseau avec son grand restaurant ouvert au printemps dernier. Il a voulu ouvrir un petit bistrot dans le 6e qui s'appelait Clover. Il récidive sous la même marque, le Clover Grill. Alors là, nous sommes dans la petite rue qui monte, c'est la rue Bailleul. Rue Bailleul, il y a le Spring, il y a Chez la Vieille, il y a le Racine 2 et désormais donc le Clover Grill. Et c'est vrai que Piège donne sa version du steakhouse, du grill contemporain. Très joli décor, orchestré par ceux qui font à peu près les plus sensibles décors parisiens du moment. J'ai oublié le nom de cette agence de design. Peu importe, en tout cas, c'est eux qui ont signé le décor, entre autres Didi Velec. C'est très réussi, très glamour. Et puis, bien ma foi, on voit que vraiment Jean-François Piège est de plus en plus à l'aise depuis qu'il est indépendant, depuis qu'il a quitté le crayon, depuis qu'il a quitté son association.
On y mange que de la barbaque ?
Pas simplement, on travaille la braise et le grill. Alors bien sûr, les plus beaux quartiers de chair, avec un travail sur les côtes de bœuf et les plats de partage, à deux, à trois. Donc des côtes de bœuf de plusieurs maturations, de plusieurs extractions, un joli travail avec des côtes de bœuf, notamment une qui est fumée au bois de hêtre. Ouais. Également, bien sûr, toujours dans le plat de partage, un canard, le canard de la mer Bugeaud, qu'on peut travailler à trois ou à quatre. Mais il travaille vraiment la braise, y compris dans tout ce qui est là de plus végétal et de contemporain.
Et pareil, même de la salade.
De la salade, bien sûr, la salade braisée. Mais alors, il faut commencer. Il y a un plat qui est d'une gourmandise folle. C'est son cèdre érable qui travaille sous la braise. Il le travaille avec une sauce friande, gourmande. On a le sentiment, finalement, de ne plus du tout manger un plat végé, un plat de potager, mais quasiment déjà un plat carné. C'est très réussi. Une carte inspirée. Alors, bien sûr, avec des vrais quartiers cardassiers, mais encore une fois, un vrai, d'abord et surtout, travail de la braise. C'est le grand retour du grill glamour. 6 rue Bailleul, le Paris 1er.
Alors, ça, c'est sûr que le grill glamour, c'est pas facile à dire. On en reparlera de viande un peu plus loin dans l'émission pour le livre de la semaine, parce que, alors là, vous avez pléthore de bouquins, et notamment, il y en a un
très grillé. Bon, les prix qui vont avec. Mais c'est à fin d'année, sont flambés.
Allez, deux petites adresses rapidement, toujours pour vos courses de Noël. Bah ouais, c'est quand même ça. On en est toujours là. Vestiaire Général, nouvelle boutique de prêt-à-porter pour vous, messieurs. 3 rue Victor Massé, dans le quartier de Pigalle. Ce sont les deux frères qui ont créé la marque Fils de But. J'ai bien dit Fils de But. Et donc là, 4 niveaux, meublés industriels, 15 marques, les vestes Issakine, les accessoires cosmétiques Bivouac, les boxeurs Battling Joe, en denim, l'atelier Venise Normande, les bougies Belle-Mèche, les couteaux Opinel, etc., etc. Tout ça pour vous, messieurs. Et puis, la Fabrique Générale, 2 bis rue Léon Cosnard, dans le 17e arrondissement de Paris. C'est Christophe Benoît Lucie et Cerise, qui est créatrice de Cerise sur le chapeau. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve? Ces deux-là sont créateurs. Et c'est immense. C'est une ancienne miroiterie. Déjà, il faut y aller rien que pour le lieu. Et ben, on y trouve des motos vintage. On y trouve des chapeaux, parce que Cerise sur le chapeau. Mais on y trouve aussi tous leurs amis. D'ailleurs, tout est à vendre dans ce lieu absolument gigantesque de 300 mètres carrés. Il y a les tissus Pierre Frey, les luminaires un flow, c'est beau et bien. Les éléments de cuisine de la Malle W ou encore des pièces rares de chez School Gallery. Enfin, tout est à vendre. C'est immense. Et vous pouvez repartir avec une moto ou avec une petite babiole, et ça va changer. C'est aussi tout un univers créatif à la limite de la galerie, finalement. Et c'est aussi un lieu qui peut se réserver, se louer pour divers événements. Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Sandy,
oui,
Web de Luxe. On peut aussi continuer à faire nos achats grâce à vous.
Ah bah ouais, on parle Noël, c'est dans quelques jours là, tout juste. Je dis quoi? Je dis Félix, joyeux Noël, Félix. Non, j'ai quelque chose de site à vous présenter. D'abord l'espace Disney qui vient d'ouvrir sur le site yux.com. Collection Disney avec des pulls Bambi, des déco-murales mini. Enfin, on trouve un petit peu tout, des valises Mickey. Enfin voilà, tout ça. Il y a la collection Disney. Il y a la collection Disney Pixar avec là de jolis petits carnets Moleskine dédiés à Toy Story. Et puis à venir, les collections Star Wars et le livre de la jungle, Marvel aussi. Voilà, beaucoup de choses. Ça vient d'ouvrir, c'est pour tout le monde. Les femmes, les hommes et quand même les enfants. Ce qu'il faut dire...
C'est bien le quand même.
Oui, quand même. C'est quand même dédié aux enfants, normalement. Mais on est tous de grands enfants.
C'est aussi un travail avec des créateurs, oui, et avec des grandes marques de mode.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, là, il y a Kenzo, par exemple, qui signe les sweatshirts, le livre de la jungle. Il y a des créateurs un petit peu moins connus, mais qui sont franchement sympas. Olympia Le Tan, par exemple, qui vient de faire des pochettes Alice au Pays des Merveilles. Bon, c'est un style hein, quand même. Moi, je les achète pas.
C'est les fameuses minaudières.
Mais ça peut faire plaisir.
Non, mais c'est
et puis, il y a un contenu éditorial qui arrive aussi bientôt. Donc, avec tout l'univers Disney, franchement, pourquoi pas. Voilà.
Et Disney travaille depuis quelques années maintenant, comme ça, avec les créateurs jeunes ou moins jeunes et les grandes marques, effectivement, pour rendre tout l'univers Disney un peu mode. Et il y a parfois des choses très malines et très réussies. Chamberlain,
donc, c'est une marque de chaussures dessinée par Louis Cardin, le petit neveu de Pierre. Chamberlain propose un site internet, un e-shop, où on va pouvoir entièrement customiser ses chaussures pour les filles. Alors, il y a deux modèles. Il y a un modèle de ballerine et un modèle à talons. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, via l'application, on prend en photo son pied, simplement une photo. Et en fait, les clichés vont être transmis à l'atelier qui va reconstituer les pieds en 3D pour en extraire toutes les mesures qui vont avec votre pied. Donc, c'est a priori, ça marche bien. Moi, je ne l'ai pas testé encore, mais pourquoi pas. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on choisit la hauteur du talon, la matière, en cuir ou en satin, le coloris, un éventuel accessoire, et on a une chaussure entièrement faite sur mesure. Ça coûte combien? Ça coûte entre 500 et 800 euros. 800 euros et c'est livré en 7 semelles. Donc pourquoi pas, en 7 semelles.
Oh, ça fait des euros et ça fait des jolies semelles.
Voilà, c'était pas vous, mais c'était beau.
Ça s'appelle Chamberlain. Merci Sandy, vous restez encore un petit peu avec nous. Vous vous mettez au sport, Emmanuel?
Non, en fait, j'allais rue de la Béréoire dans le 6e arrondissement. C'est là où il y a l'école Ferrandi, l'école hôtelière. Il y a un très joli restaurant qui s'appelle Quinçon, on en a déjà parlé. Et je tombe sur quoi? Eh bien, sur une nouvelle boutique de la maison Brompton. Si je vous dis Brompton, vous répondez?
Vélo.
Ouais, c'est le Hermès des vélos pliants. Ils viennent d'ouvrir leur 13e boutique. Alors, pas en France, c'est la première à Paris. Il y en a déjà à Barcelone, à Shanghai, à Munich, à Amsterdam. Rue de l'Abbé Grégoire, exactement au numéro 3. Et là, c'est l'univers Brompton, avec la plupart des vélos de la marque. Toutes les innovations 2017, également tous les accessoires. Alors, leur force, c'est à la fois vraiment un personnel qui connaît. C'est-à-dire, je pense qu'ils sont à la fois aussi bien commerciaux vendeurs que fous de bicyclettes. Donc, il y a un vrai, vrai, vrai service. La boutique est à la fois une boutique écrin, et à la manière, vous savez, de ces cuisines ouvertes, là, il y a des ateliers ouverts, parce que toute la force de Brompton, c'est ce qu'on appelle, si ce n'est la customisation, du moins l'optimisation. Alors, sur les guidons, sur les commandes de vitesse, sur les poignées, sur les sonnettes, sur l'éclairage, sur les selles, sur
les couleurs. Mais rien que les cadres de toutes les couleurs, c'est super.
Là, ça rajoute deux nouvelles couleurs. C'est un véritable pantonnier. Alors, cette année, les grandes couleurs Brompton sont le gris et le rouge vif.
Ça coûte combien, petit Brompton?
Oh, bah, alors là, ça dépend, parce que tout le problème de Brompton, c'est qu'il y a une base.
Ah oui.
Mais c'est la customisation.
C'est ce
que vous rajoutez, et vous allez devoir rajouter une couleur, un siège, un guidon, et ça va faire toute la différence. Mais là encore, un peu à la manière de vos boutiques générales, le vestiaire général,
le vestiaire général,
faut aller dans la boutique.
Oui,
même si on n'aime pas comme moi véritablement faire et pédaler, on pourrait presque s'y mettre. Mais bon, fiche, je suis parti quand même à l'école Ferrandi et j'ai qu'un sou parce que finalement c'est là où je me sens le mieux. Rue de l'Abbé Grégoire qui monte parce que la rue du Cherche-Midi sera un vente joliment dans le 6e.
Les objets de la semaine, je dis les parce que je trouve que la semaine dernière on a fait toute une émission cadeau. Et on a un peu oublié les enfants, finalement. Et donc, du coup, je me suis dit, là, les objets de la semaine, je vais proposer des petits trucs pour les enfants. Enfin, en même temps, c'est aussi pour les parents. Vous allez voir pourquoi. Parce que d'abord, chez Veja. Veja, la fameuse marque de basket éthique qui fait des choses superbes et ils en mettent des tonnes, là. Deux collabs. Une collab avec Smallable, donc site internet de propositions pour enfants en tout genre, donc déco, mode, mais pas seulement, et accessoires et tout ça. Et donc là, on a des superbes petites baskets à scratch, satin rose ou satin doré. coloré, so chic pour les fêtes. Et puis, ils font une collab clin d'œil avec une illustratrice qui s'appelle Mathilde Cabana. Et là, ça s'appelle Bisous et ça porte bien son nom. C'est juste des petites bouches de bisous comme ça. Et vous achetez pour maman avec la lacets et pour la petite fille avec les scratchs. C'est so cute, comme on dit.
Très clivant, hein, c'est pas
tellement, Ah, mais vous pouvez prendre des petits bisous avec les petits cœurs et les petits... Pourquoi pas? Les hommes d'aujourd'hui
si
peuvent porter
veux,
ça
oui,
aussi,
si, ça, si
vous voulez.
Moi, si voilà. Je veux le respect de mes enfants, je vais pas porter ça. Hein. Je peux vous le
dire.
Bref,
donc ça, c'était le petit clin d'œil. Deuxième chose qui est aussi autant pour les parents, pour les enfants, la vaisselle non sans raison. Non sans raison, vous savez, c'est du savoir-faire porcelainier de Limoges. C'est une nouvelle maison, enfin nouvelle, ça fait quelques années maintenant, mais sauf qu'ils ont complètement réinventé la porcelaine de Limoges. Et il y a toute une collection d'assiettes géniales pour enfants. Ça s'appelle À Table, tout simplement. Et par exemple, on a, c'est des jeux en même temps. Donc on a les 7 différences. Vous avez deux maisons avec un petit chemin devant, il faut chercher les 7 différences. Ou on a encore Où est Léo ? Vous avez un rébus, vous avez un imagé de l'alphabet, vous avez les 3 chemins. C'est vachement beau, vous avez ça en assiette. En timbale et
belle
tout ça.
Belle de salsifis.
C'est du.
Si tu veux jouer,
Kaola
tu vas d'abord extra cuire des salsifis.
Ah ben voilà. Et ben voilà. Avant, c'est un style naïf et figuratif. Bref, c'est super. Et j'adore. Il y a Air France. Air France, ils ont fait aussi une collection d'objets. Alors sur avec des motifs très jolis pour des portes. Comment ça s'appelle les portes passeports, les portes etc. Et les sacs. Et puis ils ont fait pour enfants. Ils ont fait un peu de vintage. Ils ressortent une petite valisette et. Ouais. L'hôtesse de l'air Playmobil. C'est pas génial, ça? Vous l'aviez déjà vu, l'hôtesse de l'air Playmobil? Ben voilà,
bah c'était juste mon clin d'œil. Elle donne envie, hein?
Ouais. Elle donne envie.
Celle-là.
Celle-là. Voilà. Non, ouais, mais c'était dit, juste hein. Mon petit clin d'œil. Voilà, parce que, voilà, c'est aussi le petit cadeau. Voilà, qu'on aime faire. Voilà pour les objets de la semaine. Merci infiniment, Sandy Prenois. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Web Deluxe.
On a dit
la
scintillant.
Semaine prochaine. Scintillant. Bon, tous.
Pendant cela, nous, on va déboucher quelques bouteilles. Hein. Excusez-nous, des bouteilles d'exception. À tout de suite.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Le luxe de la semaine.
Et en cette période de fête, le luxe de la semaine, c'est de s'offrir des bouteilles d'exception. Alors, on s'y connaît un petit peu avec Emmanuel, mais quand même, on s'est dit qu'on allait s'adresser à des spécialistes. On serait encore mieux servi. Attention, quels spécialistes sont avec nous? Bernard Neveu, bonjour.
Bonjour.
Sommelier du Bristol à Paris. Autre chef sommelier, parce que vous êtes aussi chef sommelier. Pardon, j'ai oublié le chef, excusez-moi. Mathias Breton, chef sommelier de l'hôtel Le Decans. Bonjour.
Bonjour.
On est toujours à Paris. Vient ensuite Philippe Jugé, bonjour.
Bonjour.
Directeur associé du salon France Quintessence qui met à l'honneur, c'était au mois de septembre le salon, mais pour vous c'est toute l'année que vous mettez à l'honneur les spiritueux français. Et nous sommes également en compagnie d'Ariane Caïda, bonjour.
Bonjour.
Directrice générale de Duclos en charge de la cave des galeries Lafayette. Eh bien tiens, on va commencer par vous. On vous a demandé à tous les quatre de nous faire une petite sélection de bouteilles d'exception en tout genre que l'on pourrait offrir ou découvrir durant ces fêtes, donc véritablement en tout genre. Il y a combien de bouteilles? Vous avez dû farfouiller dans combien de cartons aux Galeries Lafayette?
On a 2500 références, donc,
2500.
Donc ça laisse pas mal de choix.
Une petite marge. Alors d'ailleurs, c'est vrai que là ça se termine, mais régulièrement, vous faites des séances de dégustation. Là, ouais. Vous faisiez justement déguster des bouteilles d'exception. Donc, celles que vous nous proposez aujourd'hui, on va commencer. Alors vous, quand vous dégustez, vous commencez directement par une caisse, en fait.
Bah oui, pourquoi puis... voir petit. Et après, on
avez
se
raison. Alors, une caisse Duclos, évidemment.
Oui, tant qu'à faire. Voilà, une caisse Duclos Collection. Dans le millésime 2006, donc c'est un coffret, un écrin qui rassemble 9 grands vins d'exception du millésime 2006 de Bordeaux. Donc on y retrouve Château Mouton Rothschild, Château Lafitte Rothschild, Château Margaux, Château Aubryon, la Mission Aubryon, Ozone, Cheval Blanc, Pétrus et Ikem.
Ah d'accord, donc ça en fait c'est le haut du pavé, tout est dit
non,
quoi.
Mais il y a tout est dit, vous avez fait le classement donc.
C'est pour commencer et voilà, donc c'est une édition qui n'a été produite qu'en 300 exemplaires pour le monde, qui est une exclusivité du groupe Duclos et qui est vraiment pour les grands collectionneurs et les grands amateurs.
On rappelle rapidement ce qu'est le groupe Duclos pour que les gens comprennent bien.
Oui tout à fait, donc le groupe Duclos est une société de distribution de grands vins dans le monde. Qui appartient à 100% à une famille, la famille Mouex, qui est également propriétaire de Pétrus. Et Duclos a 3 activités, une première sur du grand export, une deuxième pour la vente à la restauration. Donc, ces messieurs nous connaissent un petit peu.
Ils ont l'air.
En France et à l'export, puisque nous avons des bureaux à Paris, à Bordeaux, à Nice, à New York et à Los Angeles. Et également des magasins, donc de la vente aux particuliers par l'intermédiaire de 6 magasins et d'un site internet.
Alors, quand on décide comme ça de réunir dans une manière de coffret l'aristocratie du vin bordelais, comment on arrive à persuader les maisons de
partager,
surtout d'offrir un flacon d'exception, d'abord dans quelle année, parce que ça veut tout dire et rien dire.
Alors on le fait
nos
brillons parmi
2005,
les îles.
C'est bien, hein, nos brillons de
on le fait
pas
parmi
quoi,
les
îles.
Donc chaque année nous vendons en primeur une caisse collection du millésime primeur, donc nous venons de vendre les 2015. Et là, nous avons fait une réédition spéciale sur le 2006 que nous avons lancé en 2016. Et les propriétés nous accompagnent parce que
c'est même si vous êtes un peu propriétaire de Petrus.
Petrus a accepté de nous accompagner, en
effet. Oui, d'accord. C'est facile. Et les autres, ils jouent le jeu.
Et les autres jouent le jeu. Pas uniquement parce que Petrus joue le jeu, mais parce qu'en termes de cible et de clientèle, la clientèle est commune et ce sont vraiment les grands amateurs de grands vins.
C'est quand les grandes maisons de luxe du comité Colbert travaillent ensemble.
Arrive un moment donné où on n'est même plus dans l'histoire du prix, c'est juste le vertige. Un coffret pareil, c'est combien ?
9 000 euros TTC.
Ah. Donc c'est un investissement aussi, on peut le prendre directement
exactement,
à la cave.
Exactement.
Il y a deux manières de le voir.
On peut les voir aussi.
Elle voit tout de suite qu'elle dit, mais nous, ça va lui faire appel le repas du 31.
Oh, vous exagérez.
En revanche,
on rappelle d'ailleurs que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Pour
tout ceci est à consommer avec modération. Allez, on continue. La France ne produit pas que des vins. De plus en plus, elle produit différents alcools en tout genre. Et c'est ce que vous nous montrez chaque année, désormais. Philippe Jugé, avec le salon France Quintessence, qui mettait à l'honneur en septembre, justement, les spiritueux français. On va commencer par quoi ? Par un petit rhum ? Alors là, c'est la grande France, alors là.
Exactement. On ne fait pas du rhum que du côté ouest de la France et de la métropole. On en fait aussi très loin, à Tahiti. Alors, pas depuis très longtemps, en l'occurrence, puisque Tahiti, Manao, c'est le premier rhum polynésien et de Tahiti. Alors, il n'y a que 600 bouteilles. J'en ai 300 de plus que votre coffret. Il y aura un peu moins de déçus. Je suis un peu moins cher.
Il y a bien joué.
Je suis un peu moins cher. Non, c'est un projet tout à fait étonnant, Manao, puisqu'il n'y avait plus de canne à sucre à Tahiti depuis une cinquantaine d'années. Et c'est un projet qui a été lancé par deux œnologues de Bordeaux et d'Angers qui sont partis en coopération à Tahiti, embauchés par la Brasserie du Pacifique pour aller faire le fameux vin de Tahiti. Si vous connaissez le vin de Tahiti, c'est pour ça qu'ils ont été embauchés. Il y a une dizaine d'années, des vins assez particuliers qui poussent sur la barrière de corail, c'est des vins blancs un peu salés, donc assez bizarres, mais évidemment très réputés. Peu accessible en métropole, mais relativement réputé et connu quand vous baladez dans ce coin-là du monde. Et il y a 7 ans, ils ont décidé de relancer la production de rhum à Tahiti. Alors, il a fallu reconstruire des plants de canne à sucre. Il n'y avait plus de plants de canne à sucre exploités. Ils ont réintroduit une variété ancienne au Tahiti, créé une pépinière, bouturée plant par plant, replantée en milieu naturel. Donc c'est un rhum tout à fait exceptionnel. Seulement 2000 bouteilles. Il n'y a qu'un hectare de canne à sucre aujourd'hui en exploitation à Tahiti. 2000 bouteilles produites. La première récolte a eu lieu en 2015. Le premier embouteillage en 2016, et il y en a 600 pour la métropole.
Il a déjà passé par Manao. Il est déjà passé par les fourches codines de ces fameux jurés qui estiment comme ça, souvent à l'aveugle, des rhums qui parfois c'est des rhums inattendus.
Non, parce que Tahiti, en dehors de toute appellation géographique et tout AOC, hein, techniquement c'est un rhum agricole, c'est d'ici à partir de 100% de pur jus de canne, hein, c'est même pressé dans le champ, fermenté à même le champ, la fin de fermentation se passe dans le champ, parce que les champs de canne à sucre sont à côté de Bora Bora, c'est d'ici à Papette, il y a 8 heures de bateau, donc c'est assez technique à faire, c'est un rhum rustique, hein, pour amateurs de rhum blanc, la société vient de sortir le premier rhum ambré après 18 mois de vieillissement fût d'Armagnac, mais la volonté est de faire plutôt du rhum blanc, et donc non, comme c'est en dehors de toute appellation.
Et vous, à titre très personnel, vous l'avez dégusté ?
Bien sûr.
Vous le placez comment dans la grille des rhums ? Parce qu'il faut savoir que les rhums, il y a vraiment des crus et des terroirs dans le monde entier. Les rhums de la Barbade qui sont formidables.
Oui, complètement. Alors là, c'est un rhum qui est très proche de son terroir. Il est certifié bio. C'est le seul rhum certifié bio aujourd'hui dans le monde, hein, Ecocert. Parce que là, évidemment, il il y a 0,130 puis depuis tout le temps, à peu de choses près, donc ils n'ont eu aucun souci pour être certifiés bio.
Et un hectare, ça va.
Et un hectare, ça va. Alors, à la dégustation, c'est très puissant, c'est des rhums un peu rustiques, rhum blanc, donc vraiment, on sent et on a l'impression de croquer dans la canne à sucre, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté quand même rustique, on n'est pas dans les rhums
traditionnels. J'ai connu les... Il y a de la pomme, quoi. Il y en a.
C'est délicieux. Tous les gens qui l'ont goûté sont absolument ravis. Je peux vous dire qu'il y a 600 bouteilles, 2000 bouteilles produites. On est dans le même registre que l'investissement et que l'exception.
Et donnez-lui votre carte. Donnez-lui votre carte. C'est qui gère les Galeries Lafayette.
C'est pas encore vendu aux Galeries Lafayette.
C'est maintenant,
assez.
Là. Passez la carte.
Allez, justement, on continue notre balade. Sinon, on ne va jamais y arriver au bout de notre histoire. Donc, on est passé par Bordeaux, on est passé par Tahiti. Bah, c'est ça aussi. Hein. On voyage grâce aux spiritueux. On s'arrête en Champagne, mais on s'arrête à l'hôtel Le à deux pas du Trocadéro, parce que vous dites avoir la plus grande carte de champagne. C'est vrai, ça,
Emmanuel? Oh, à mon avis, oui.
Ouais. Les plus belles, 240 références, bien sûr, les grandes marques, les grandes maisons, mais aussi des domaines plus méconnus. Donc, 116 rue Lauriston, vous avez de la chance, finalement, Mathias Breton, d'être à la tête de tout ça?
Oui, c'est très intéressant. On a vraiment la chance, aujourd'hui, de faire la liaison entre le vigneron et le consommateur. D'aller voir le vigneron très souvent, tous les deux mois, et ensuite de pouvoir revendre le produit en ayant les connaissances qui nous ont transmis.
Alors,
justement... Et en plus, juste, ainsi, la force du Dokkan, c'est que ça a été l'un des premiers bars à jouer un peu le côté monomaniaque, bar à champagne. Donc effectivement, ils ont beaucoup de références, mais quand on arrive au Dokkan, on est prêt à jouer le jeu. C'est-à-dire qu'il y a d'autres maisons, et notamment au Bristol, vous nous direz combien vous avez de références de champagne, ça ne doit pas être piqué des hannetons. Mais au Bristol, il y a une livre de cave qui est épais comme ça. Alors qu'au Dokkan, on vient jouer le jeu du champagne, et on les écoute, et donc on est prêt à aller prendre des chemins de traverse, des vignerons indépendants. C'est que le discours est bien amené, le fond rejoint la forme.
Alors, première sélection, on commence quoi? Du Bruno Paillard?
On a Pascal Agrapard.
Pascal Agrapard.
Sur sa cuvée expérience. Une seule année, 2007. Que des vieilles vignes sur Avise. Et c'est un produit tout à fait atypique parce que, oui, c'est un millésimé, c'est une seule année. Mais il utilise pour la deuxième fermentation du moût de raisin, de sa vendange. Donc, un côté encore un petit peu plus naturel, finalement.
Et du coup, qu'est-ce que ça donne?
Ça surprend, ça déroute en bouche, parce que souvent, c'est ce champagne qui commence à déconstruire un petit peu la fabrication traditionnelle du champagne, même si elle est assez respectueuse. On le voit avec les vins biodynamiques, il y a quand même tout un public qui, à la première dégustation, est totalement dérouté. C'est un peu la même chose ici?
C'est un petit peu la même chose. Faut en boire plusieurs bouteilles pour s'habituer. Voilà. Oui.
C'est quand même un peu un champagne d'initié en vérité.
On rappelle que ça consomme avec modération, bien entendu. Peut-être pour mieux comprendre finalement Mathias, avec quoi vous l'accompagneriez parce que vous travaillez là-dessus aussi.
Voilà,
au
on
bar,
travaille vraiment sur les accords. On crée des soirées avec nos clients, des soirées à l'aveugle, qui puissent déguster 5 à 6 champagnes différents, sans savoir les noms, pour vraiment qu'ils aient le goût qu'ils préfèrent, le cépage, le... Si c'est 100% pinot blanc, des choses atypiques, des blancs de blanc, chardonnay, et des mets également. Donc ils goûtent les mets, les yeux fermés, pour repartir vraiment sur le goût.
Et donc celui-ci, à Agrapard, vous l'accompagnez de quoi?
Sur vraiment des belles Saint-Jacques, vraiment juste poêlées, très simplement, que ce soit vraiment le vin qui donne la puissance.
Mm-hmm. Vous approuvez, Bernard Neveu, au Brésil?
Moi, je suis évidemment grand admirateur de Pascal Agrapard, qui est évidemment un très, très bon vigneron, qui est de toute manière un des rois sur Avise. C'est le vigneron à suivre en ce moment.
Avise, qui est un des terroirs de la Champagne. On n'est pas dans un monocépage, là. On est quand même toujours Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay ou pas du tout?
Que du Chardonnay.
Que du Chardonnay. Cuvée. Donc, il faut quand même bien rappeler que c'est déjà des champagnes un peu atypiques.
Allez, on part pour le Bristol. Bristol, j'allais dire,
on ne présente plus.
Allez, on va le présenter quand même. Si on va présenter la cave, parce qu'on présente souvent
c'est
Eric
vrai,
Fréchon.
Toujours,
parle beaucoup.
Comment il s'appelle le chef?
Du chef cuisinier Eric Fréchon.
Eric Fréchon, ah oui, c'est ça, Eric Fréchon.
85 000 bouteilles, 1800 références pour le restaurant Épicure, 150 pour la brasserie 114 Faubourg, une dizaine de sommeliers que vous dirigez donc, Bernard Neveu. Et donc, pour cette petite sélection, on commence par quoi? Hermitage 2003?
Oui, c'est la cuvée que chaque amateur souhaite déguster. C'est la cuvée Catelin, du domaine icône de Chave, hein, de Gérard Chave, qui maintenant a transmis à son fils Jean-Louis. vigneron de père en fils, hein, c'est une institution, c'est le chantre de l'Ermitage, hein, il est souvent nommé comme ça, Gérard Chave.
On rappelle juste l'Ermitage, on le situe sur la carte.
Le cœur de la vallée du Rhône, hein, évidemment. Et donc là, c'est une cuvée assez atypique, premier millésime 1990, en hommage un petit peu à l'amitié qu'avait Gérard Chave avec le peintre Bernard Catelin. Et donc c'est lui évidemment qui a dessiné cette étiquette qui est très connue, hein, sur ce fond rouge. Et donc évidemment c'est une cuvée qui ne dénature pas la cuvée classique de l'Ermitage, la vision globale qu'a Jean-Louis Chave. On est ici sur une cuvée vraiment très particulière où il n'y a eu que 8 millésimes de produits. Et finalement, on est, je dirais, dans la fine fleur de la production de la vallée du Rhône. Mmh. C'est les cuvées, par exemple, le dernier millésime produit et le millésime 2010.
D'accord. Et on est
il n'est pas commercialisé. Tous les vins sont gardés au domaine. Jean-Louis Chave les garde pour l'instant. Il
de
les sort.
L'exclusif. On vous disait.
Il les sort vraiment, c'est vraiment au compte-gouttes.
On vous parlait d'exception.
On est assez sage au Bristol. On propose pour l'instant que le millésime 2003. On laisse encore un petit peu les autres.
C'est bien, c'est parfait. On n'a plus le temps, Emmanuel.
Mais c'est pas, quand même, on rappelle.
Bah, évidemment, là, c'est le public. Évidemment, la colline de l'Ermitage, c'est la Syrah. Hein, c'est le cépage magique qui donne les grands vins de la vallée du Rhône.
Parfait. Et vous savez, on fait déjà une petite pause. On a quatre bouteilles d'exception.
Ça va vite, hein.
ça va très vite. On va accélérer un petit peu sur la deuxième partie. Non.
Avec modération.
Donc on fait une petite pause sur BFM Business. On se retrouve tout de suite pour d'autres bouteilles d'exception. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et le luxe de la semaine, cette semaine, c'est toujours les bouteilles d'exception. Nous sommes en compagnie toujours de Bernard Neveu, chef sommelier du Bristol, de Mathias Breton, chef sommelier de l'hôtel Le Docans, de Philippe Jugé, directeur associé du Salon France Quintessence, et d'Ariane Keidaï, directrice générale de Duclos pour la cave des Galeries Lafayette. Vous nous avez épaté tout à l'heure. On continue la sélection avec vous, avec un petit coffret, avec juste, comme vous avez dit, l'aristocratie des bouteilles bordelaises. Ça, c'était le top, mais pas mal non plus. On n'est pas obligé de prendre toute la caisse tout de suite. On va prendre juste un petit cheval blanc.
Voilà, alors, petit cheval blanc, c'est un nouveau-né du premier grand cru classé de Saint-Émilion au château Cheval Blanc, qui depuis de nombreuses années souhaitait faire un vin blanc. Donc ils ont travaillé pendant de longues années. Ils ont fait un premier millésime en 2009, un autre en 2010, 11, 12, 13. Le premier qui est commercialisé, c'est le millésime 2014. Et il est commercialisé parce qu'ils sont arrivés à ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire un vin blanc qui soit dans la droite lignée de l'exigence de Château Cheval Blanc. Donc c'est aujourd'hui produit sur une petite parcelle de 5 hectares, 100% Sauvignon. À échéance du millésime 2018, il y aura un petit peu de sémillon qui rentrera en production également. Alors c'est une production un peu plus importante que la caisse.
Toujours confidentielle.
On arrive quand même au chiffre de 3000 bouteilles, ce qui est presque indécent. Et donc c'est un petit bijou qui est à la fois puissant mais pas exubérant, dans la fraîcheur, et qui peut non seulement se garder, parce que ce sont des vins de garde.
Et ce n'est pas parce que ça s'appelle Cheval Blanc que vous dites ça.
Non, pas du tout.
D'accord.
Bernard Neveu, vous l'avez goûté forcément.
Moi, j'ai dégusté cette semaine, donc le lancement de cette nouvelle couleur finalement. Mm-hmm. Hein, donc c'est quelque chose d'historique.
Historique, ouais.
Et c'est intéressant parce qu'on ne bascule pas justement, on galvaude pas, on ne fait pas un vin blanc boisé à l'extrême, avec beaucoup de richesse et d'opulence. On respecte le terroir qui a été défini de Cheval Blanc, et il y a toujours une très très belle élégance et beaucoup de fraîcheur. Et ça, c'est une vraie marque de fabrique de Cheval Blanc.
Un vrai matour.
Merci. Donc, une belle bouteille. Philippe Jugé, on continue la valse des spiritueux français avec vous. Vous nous avez amené à Tahiti tout à l'heure. Un petit cognac avec modération.
Oui, quand on parle de spiritueux d'exception un peu partout autour du monde, et vous voyez bien dans vos hôtels ou à la cave aux Galeries Lafayette, le cognac est quand même le spiritueux, je vais dire, d'exception français et reconnu comme tel partout dans le monde. Alors j'ai choisi un cognac un peu spécifique, Maison Gros Perrin, qui est un négociant qui achète des barriques chez des gens qui ont gardé des barriques qu'on fait distiller pour leurs enfants, qui sont là dans la famille depuis de longues années. Et Guilhem Gros Perrin, c'est son père qui a créé cette société, la Gabarre, qui fait ça, cherche un peu comme un chercheur de trésors, va de maison en maison, frappe aux portes, se renseigne, récupère des informations pour aller chercher des fûts exceptionnels qu'il embouteille tel quel, donc brut de fût, non filtré évidemment, sans coloration artificielle. Et c'est vrai que ça donne des cognacs de collection, c'est le nom de la gamme, tout à fait redoutable. J'ai choisi un fin bois 2003, donc un des crus un peu mésestimés du cognac. Il y a 6 crus dans le cognac, le plus connu étant la grande champagne et les petites champagnes, mais fin bois est aussi fait au produit aussi des très belles eaux de vie. Donc millésime très jeune, mais cognac très riche, très puissant. Quand la famille Gros-Perrin, puisqu'il y a le père, le fils et la fille aujourd'hui qui travaillent, quand Guilhem pense qu'il a vraiment un lot d'exception, il demande à sa sœur qui a fait les beaux-arts de faire l'étiquette. Donc toutes les étiquettes sont faites à la main et les bouteilles sont numérotées.
C'est passionnant de le suivre, lui. C'est comme extraordinaire, un privé, en fait.
Il a un chai. Parce que vous savez que c'est très compliqué de millésimer en cognac. C'est suivi par un huissier. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, toutes les bouteilles sont signées par l'huissière qui vient contrôler quand il ouvre le fût, qui vient pour ouvrir le fût. Et comme elle est obligée de rester jusqu'à ce que le fût soit refermé, s'il n'est pas vidé du premier coup, il la fait travailler. Il dit, quitte à ce que vous soyez là pendant 2 heures et que je vous paye, vous allez me signer toutes les bouteilles. Donc les bouteilles sont signées par l'huissière de cognac. À la main.
Ah ouais, boss.
C'est une belle histoire, le cognac Gros Perrin. Allez, on continue notre balade en champagne avec vous, Mathias Breton, du Bruno Paillard.
Bruno Paillard, le Nec Plus Ultra 1990, millésime assez mythique.
Nec Plus Ultra, c'est le nom du millésime, de la bouteille.
De la cuvée, exactement, oui. très grand millésime, 90, très opulent, très puissant. C'est prêt à boire maintenant. Ça a été le premier millésime Nec Plus Ultra de la maison Bruno Paillard. Donc ça fait une bouteille d'exception, un souvenir en même temps, et un vin qui reste toujours aussi jeune.
Et c'est peut-être intéressant de rappeler, justement, parce qu'on on pense pas toujours avoir des bouteilles aussi anciennes pour le champagne. 1990, ça date un petit peu maintenant.
Oui.
Et au contraire, vous avez des bouteilles qui les plus anciennes, dans votre cas, vous savez.
76, 85. Ah ouais. Sur les grands millésimes, il y a vraiment un très joli potentiel. Et les vins gardent toujours de la fraîcheur.
Alors, il y a la touche, comme vous l'avez dit, la fraîcheur, la touche Bruno Paillard. Et 90, en quoi c'est un millésime qui, est, à votre avis, en plus de la touche Bruno Paillard, mérite de s'y attarder ?
Le climat sur cette année 90, qui a fait que ça a été des maturités vraiment superbes au moment des vendanges. Et sur les belles parcelles, ça va donner vraiment des vins de garde. Et 90 reste encore un vin très jeune aujourd'hui.
C'est ça. C'est formidable, moi je trouve que c'est vrai.
Allez, on s'arrête au Brissol avec un petit Porto.
Un grand Porto.
Un grand Porto. C'est vrai, mais c'est voilà. Pourquoi le Porto, c'est... on dit toujours un petit Porto. Oui. Je voudrais
ça, c'est, un petit, petit peu comme les concierges.
Non, c'est malheureusement, alors, le marché français est le marché le plus consommateur de Porto, mais de Porto bas de gamme.
Bah, on est nuls. On en consomme beaucoup, mais mal. On n'y connaît rien.
Voilà, c'est le Porto qui reste dans le réfrigérateur et que l'on sert le dimanche avec les biscuits salés. Et... Alors que là, on est avec la meilleure des Quintas, enfin, à mon sens, Quinta do Noval, avec une cuvée qui est mythique, qui est la cuvée nationale. Nationale, c'est à peu près 30-35 millésimes de produits. Il y a 3 millésimes mythiques. 1931, qui est le premier millésime. Il y a 63, qui fait partie des millésimes, un peu comme 90, on peut dire, qui est où toutes les conditions sont réunies et c'est ça donne évidemment un grand vin. Et puis il y a 94, ce que j'ai
sélectionné,
voilà, ce que nous avons évidemment. 94, c'est l'arrivée de Christian Silly d'Axa Millésime en rachetant la propriété de Quinta do Noval. Et la cuvée nationale, c'est une cuvée qui est mythique de par sa faible production, tant au niveau évidemment des millésimes produits et du nombre de bouteilles produites, c'est entre 2 et 3 000 bouteilles, donc qui s'arrache vraiment de par le monde. Et c'est toujours, évidemment, des vins qui vieillissent admirablement. On est là, ici, sur des vignes en franc de pied. Donc, il n'y a ce ne sont pas des vignes préphylloxériques, hein, attention, c'est des vignes en franc de pied, donc on est vraiment, il y a des choses parfois qui s'expliquent, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, et sur cette partie-là de la Quinta, justement, et ces vignes en franc de pied résistent.
C'est la Quinta de souche, là, c'est le cas de le dire.
Exactement.
Juste, rapidement, on voit quand même qu'on est un peu bâchard, les gens commencent à réfléchir au Porto, on voit même des maisons à Paris qui commencent à travailler, je pense que la culture du Porto, on l'a vu sur le whisky, le travail était fabuleux, ça commence à venir. À quel moment doit-on boire le Porto, surtout avec quoi, comme vous le disiez?
C'est
pas en fin de repas, et c'est pas forcément.
C'est pas avec les biscuits salés.
Nécessairement en fin de repas. Moi, je dirais, bon, déjà,
un vintage,
exactement. C'est un vin, donc on ne peut pas, je dirais, l'ouvrir et puis le garder trois semaines, un mois, comme on pourrait le faire avec d'autres types d'alcool. On reste donc dans l'esprit d'un vin. Donc on le stocke comme un vin et on le boit évidemment comme un vin. Et c'est un magnifique produit. Moi, à mon sens, on peut se faire plaisir avec, tant au niveau avec un plat. Un pigeon juste rosé avec une sauce aux épices et un léger caramel, en fait.
Mais ça, c'est fabuleux.
Ça fait partie des accords relativement classiques. Un joli plateau de fromage, des pâtes persillées ou même des coups de fleurets. On peut vraiment se faire plaisir dessus. Et puis, évidemment, ensuite, il suffit de rêver à un dessert au chocolat, celui que vous préférez. Et on touche à sublime parce que c'est des grands vins.
Allez, encore un tour de table, une dernière brève de comptoir.
Allez, il
avec
nous reste,
modération, etc.
C'est un nouveau jeu, il nous reste 4 minutes, donc vous avez à peine une minute chacun pour nous raconter cette dernière bouteille sélectionnée. On y va avec vous, Ariane Queda, à la cave des Galeries Lafayette. Ah bah tiens, on va partir sur les whiskies, ça c'est
voilà, bien. Changeons un peu, quittons Bordeaux. Ouais. Et donc la bouteille dont je souhaite vous parler, c'est le whisky Bellevoix.
Français.
Qui est 100% français. J'en ai parlé
il y a pas longtemps, vous avez raison d'insister.
Exactement, qui est 100% français, y compris l'orge. C'est un triple malt non tourbé et qui est un pour lequel il y a eu des centaines de dégustations partout en France pour identifier trois fournisseurs qui aujourd'hui sont dans le Nord, en Alsace et en Lorraine. Exactement, distillerie française vieillie en fût en France dans le chai de Bellevoix. Et voilà, donc ce sont des whisky qui sont équilibrés, élégants et frais. Donc voilà, que du bonheur.
Et de comment on dit.
Ils sont en Charente, je crois qu'ils sont basés.
Ils sont en Charente, mais c'est ça, ils font travailler toutes les régions de France, enfin celles que vous venez de citer. À côté, Philippe Jugé, vous nous avez ramené un whisky breton.
Tout à fait, alors je connais bien Bellevoix, évidemment.
Oui, évidemment.
Moi, j'ai ramené un whisky. Il faut savoir que le whisky français, aujourd'hui, c'est 800 000 bouteilles vendues par an, quasiment autant que le whisky japonais, dont on parle beaucoup, hein. C'est 1 million de bouteilles.
Et la même élégance. Hein.
Et la même élégance,
on est loin de l'Irlande, et encore plus loin de l'Écosse, il faut bien le dire. On n'a pas les notes de tourbe et de gelée. Mais en termes d'élégance, on parle beaucoup des whisky japonais. Je crois que les Français sont en train de leur montrer en termes de ruban.
Moi, j'ai choisi un whisky breton Varenguem, qui est la première, donc le whisky armorique, single malt. La distillerie s'appelle Varenguem. C'est la plus ancienne distillerie de whisky en France. Elle existe depuis 1900. Elle produit du whisky depuis 1984. C'est vrai que plutôt que de sortir un 10 ans, comme on le fait classiquement, au bout de 25 ans d'existence, ils ont sorti un millésime 2002, et tous les ans ils sortent une version 2002, donc qui avait 10 ans en 2012 et qui cette année a donc 14 ans. Et j'ai donc choisi ce millésime 2002-2016 parce qu'il célèbre le père du whisky français, Gilles Lesourd, l'ancien propriétaire de la distillerie, qui appartient en retraite cette année, et c'est donc lui qui est en photo sur l'étiquette.
Armorique millésime 2002. Allez, un petit champagne au d'occasion.
Un dernier verre, une dernière coupe, une dernière
Bollinger.
Flûte.
La maison Bollinger sur la cuvée RD, récemment dégorgée sur 2002. Un grand classique, mais toujours aussi bon.
Qu'est-ce que beaucoup ça veut dire et qu'est-ce que ça change récemment dégorgé?
Donc les bouteilles sont restées en cave avec les levures et ils dégorgent au dernier moment pour vraiment garder et la puissance du vin qui a travaillé pendant des années et la fraîcheur pour allier vraiment les deux. Que sur des grands crus, une seule année, et en extra brut, donc très peu d'adjonction de sucre. Le choix
impeccable.
Parfait.
On sent que,
on
en fait, c'est terrible. On sent que ce sont des bouteilles pour lesquelles il n'y a rien à rajouter. Vous consommez ça avec modération et c'est impeccable. Allez, last but not least, Bernard Neveu, depuis maintenant que vous nous avez fait saliver avec tout à l'heure, un petit morceau pour terminer.
Ah, quand même.
Alors, de nouveau, c'est un grand morceau.
Là,
c'est un grand morceau.
Ouais,
un grand morceau. C'est un des domaines dont on voit que très peu la production, parce qu'il y a aussi c'est très confidentiel, on n'en entend pas beaucoup parler. Pourtant, il y a un grand critique de vin qui en a fait son vigneron de l'année il y a quelques temps maintenant. C'est Arnaud Hante, et c'est pour moi le propriétaire qui est tout simplement, il est numéro un. Ouais. C'est, il va laisser de toute manière, c'est certain, où ces bouteilles laisseront une empreinte et une trace vraiment dans le dans la commune de Meursault, parce qu'on est sur des vins qui sont tout simplement les plus précis et plus aboutis à ce jour. On est face à des vins qui sont toujours très fins, cristallins et extrêmement précis. On peut sans aucun problème, je dirais, le sélectionner sur la table du réveillon avec avec facilité.
Voilà. On finit en beauté.
Il faut avoir dans sa vie goûté un grand Bourgogne blanc, et on sait que c'est quand même. Je suis désolé, mais c'est la Bourgogne qui domine le monde.
Non,
mais
on a sans aucun Emmanuel. Problème.
Il faut aller à Meursault et chez lui. Non, mais il n'y a même pas à discuter, quoi. Donc, je suis gentil, cheval blanc, on a été poli.
Je rappelle juste que, mine de rien, au Bristol, ils ont eu aussi le grand award Wine Spectator parmi leurs dernières distinctions.
J'ai combien de breloques par semaine
Ils
collectionnent. Il faut dire qu'il y a une sacrée.
Bon, après, la carte des vins, évidemment. C'est un vrai plaisir, mais c'est aussi un travail quotidien et de plusieurs années.
Et en dialogue parfait avec le chef, avec le pâtissier et avec toute la direction de salle.
C'est primordial et on ne peut pas y arriver, je dirais, sans évidemment ce que vous avez dit, et puis également avec une direction générale qui nous permet tout simplement de nous exprimer.
Merci infiniment.
Ça, c'est normal, moi je ne suis pas salarié non plus.
Chef sommelier du Bristol, Mathias Breton, chef sommelier de l'hôtel Le Decans. Merci infiniment à vous. Philippe Jugé, directeur associé du salon France Quintessence. Merci à vous. Et Ariane Queda, directrice générale du Clos, en charge de la cave des Galeries Lafayette. Merci à tous les quatre et très bonne fête. Merci pour cette belle sélection que nous avons consommée avec toute modération.
Restez
avec nous, c'est le livre de la semaine.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, le livre de la semaine.
Et alors, vite fait, les livres de la semaine, Emmanuel, et c'est spécialement pour vous, en ces temps de vegan, de sans gluten, etc. Du coup, toute la viande se réveille, que dis-je, tous les fans de viande se réveillent. Et alors là, on a pléthore de livres sur la viande. Il y a bien sûr, je vais commencer par cela, ceux d'Hugo Desnoyers, vous nous en avez parlé, bien sûr, Grand Boucher. Il y a Carnivore, le livre pas du tout végétarien, où là, il a travaillé avec Christian Etchebest, Eric Hospital et Philippe Tredjeux aux éditions Ground. Donc là, on est vraiment sur tous les différents choix de viande, le bœuf, mais pas seulement, c'est essentiellement des recettes.
Par quartier, par extraction, c'est bien fait.
Exactement.
C'est plus un manuel de viande qu'un livre de recettes.
Exactement. Et puis, il a fait aussi griller 60 recettes de viande grillée, mijotée et braisée. Là, c'est mille et une façons de cuisiner la viande, finalement.
Là, on est vraiment dans les jeux de cuisson.
Chez Hugonnet Desnoyers, et c'est chez Tana Édition. Et je vous parlais de Carnivore. Carnivore, c'est aussi le nom du premier livre de Akram chez Alain Ducasse Édition. Ça s'appelle Carnivore, 40 recettes faciles pour ceux qui ont les crocs. Et là, ce qui est un petit peu facile aussi, même s'il y a énormément de recettes de viande, c'est que mine de rien, quand même, il a mis un petit peu de dessert sans viande, je vous l'accorde. Et quelques petites choses pour accommoder. Mais
Akram Benalal, qui est le jeune chef, effectivement, qui travaille dans les hautes sphères avec ses étoiles Michelin, mais qui a lancé les ateliers Vivenda, ateliers dédiés à la viande dans le 16e, rue du Cherche-Midi, également dans le Marais, et qui sort en même temps son... Il n'avait pas fait de livre. Alors, un là et un autre qui lui témoigne plus de ses plats signatures, qui sort d'une très belle maison d'édition également.
Et allez, un tout dernier, comme ça vous pourrez cuire la viande à toutes les saucisses, j'ose dire. Ça s'appelle Fumée séchée. Alors, c'est viandes et poissons, mais n'empêche que c'est aussi une autre manière d'aborder la viande. C'est le guide des salaisons maison, édition Marabout. Alors là, pour le coup, c'est du très pratique. Mais voilà, si vous voulez accorder tout ceci. Voilà, vous en avez pour votre kilo de viande.
J'avais les crocs, vous.
J'avais énormément les crocs. Allez, l'agenda très rapidement.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Et vous, pendant ce temps-là, vous allez courir les expos, Emmanuel.
Ouais, une à ne pas louper, là où commencer le 1er décembre, elle durera jusqu'au 23 avril prochain. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas baladé du côté du musée des arts décoratifs à Paris, rue de Rivoli, avec une exposition dédiée à la mode. J'adore le titre. Tenue correcte exigée quand le vêtement fait scandale. Le catalogue est somptueux, la mise en scène est plutôt bien. Et c'est vrai qu'ils travaillent. Alors, toujours avec le musée des arts déco, c'est un côté historiographique. On commence du 14e siècle jusqu'à nos jours. Comment le vêtement a pu casser les codes de la société, la provoquer, jusqu'à finalement, à la fin, finir par être assumé. Alors, si je vous dis la jupe pour homme, oui, les années 80, ça a pris, ça n'a pas pris, mais on voit qu'il y a d'autres civilisations qui jouent. Le bikini, bien sûr, la mini-jupe, le baggy, le blue jean, la capuche, le pantalon féminin, le smoking féminin, cher à
Saint-Laurent,
qui à l'époque fait scandale ou demi-scandale, et aujourd'hui est presque devenu une icône vestimentaire de la femme qui se respecte et de
tenue
l'homme qui l'accompagne.
Tenue correcte, exigée.
J'adore cette expo.
Au musée des arts Déco, rue de Rivoli, dans le premier arrondissement. Et je termine rapidement, histoire de vous mettre l'eau à la bouche, une petite dégustation d'huîtres. C'est la cabane à huîtres de la maison mère qui s'installe à l'hôtel Grand Amour, tous au mois de décembre, du mardi au samedi, entre 19h et 23h, avec sélection de vins et de bière aussi, figurez-vous, pour accompagner les huîtres, donc des coquillages. Alors en maison mère, ils sont très pointus là-dessus, élevés en 4 ans dans les règles de l'art à partir de naissins captés en pleine mer. C'est ça la différence.
À l'hôtel Grand Amour, la rue de la Fidélité.
Exactement, ça s'appelle la cabane à huîtres, tout simplement. Ça vous fera une autre raison d'y aller.
Ah bah voilà. Je suis vexé.
Vous avez bien fait de passer dans l'émission, Emmanuel. Merci beaucoup, Emmanuel. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Good luck. C'est terminé pour aujourd'hui. C'est aussi dès lundi en direct à 14h sur BFM Business. À bientôt.
BFM Business, Good Luck Paris, l'édition du week-end.